Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
La COP29, conférence des Nations Unies sur le climat, prévue en 2024, revêt une importance particulière pour l'Afrique. Depuis des décennies, le continent africain subit de plein fouet les effets du changement climatique, bien qu'il ne soit responsable que donc des 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La COP donc pourrait ainsi marquer une étape décisive pour un continent qui aspire non seulement à se défendre contre les effets du climat, mais aussi à devenir un acteur incontournable de la transition écologique mondiale. Et sur les enjeux de cette COP29 pour l'Afrique et le Maroc en particulier, nous recevons Saïd Guemra, expert en management de l'énergie. Bienvenue chez vous et merci encore de répondre, comme toujours, à nos questions.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Je vous remercie.
Alors, la COP29 organisée à Bakou est un grand moment de concertation mondiale autour du climat. Quelle évaluation faites-vous de ces COP de manière générale? Est-ce le bon moyen pour venir donc à bout des problèmes climatiques plutôt, qui commencent à se manifester de manière très accentuée, à parler également des inondations, la sécheresse entre autres, et bien d'autres catastrophes naturelles?
Eh bien, écoutez, l'objectif initial des COP, donc la première COP a eu lieu en 1995, donc ça sera bientôt 30 ans. L'objectif initial était très clair, c'est de réduire les émissions de CO2. Alors, valeur d'aujourd'hui, les émissions de CO2 ne font qu'augmenter. Donc, on prévoit une augmentation, par exemple, en 2024, une augmentation de 0,8% pour s'établir dans les environs de 37,4 milliards de tonnes de CO2. Ça, c'est, si vous voulez, ce sont les émissions de tous les fossiles dans le monde. Donc, nous sommes devant une équation qui est assez compliquée. C'est que il y a eu plusieurs COP, il y a eu plusieurs engagements des pays, il y a eu énormément d'initiatives, mais le fait est que les émissions de CO2 ne font qu'augmenter. Et ils ne font qu'augmenter, ce qui veut dire qu'on sera vraiment à côté des accords de Paris, qui ont parlé d'un objectif d'augmentation de la température de 2 degrés Celsius, avec l'option de 1,5 degrés C. Et si ça continue comme ça, eh bien l'élévation de la température sera entre 2,3 et 2,6. Donc on aura des troubles climatiques, et on le voit aujourd'hui dans le monde, on aura des troubles climatiques qui seraient certainement plus importants que ça. Donc l'évaluation des COP, aujourd'hui, nous sommes à côté de l'objectif qui a été fixé dès le départ. Et la COP 29, qui se tient à Bakou, ben, on parle d'un objectif commun de financement des projets d'atténuation climatique. Et si vous voulez, il y a une première fumée blanche qui est sortie de cette rencontre, c'est que les marchés CO2 dans le monde vont fonctionner selon des règles précises de l'ONU. Donc ça, c'est un premier gain qui a été acquis, je crois, au deuxième jour de la COP. Deuxième fumée blanche, c'est la création du marché mondial du carbone. Alors, cette création, elle était attendue depuis un certain temps, ce qui veut dire ce qu'on appelait dans la taxe universelle carbone. Alors, On ne connaît pas les liens de cette taxe universelle par rapport à la taxe européenne. C'est-à-dire, est-ce que ça va éliminer la taxe européenne du MACF ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça, c'est une nouvelle très fraîche qui vient de tomber de cette COP de Bakou et qui va donc permettre réellement... disons, une justice, une meilleure justice climatique, je dirais. Et le plus important, c'est que dans tout ça, ce sont les accords de Paris qui stipulent la possibilité pour deux pays de coopérer dans un système qui leur permette d'atteindre des objectifs climatiques. Donc ça ne sera plus géré dans le cadre national, mais dans un cadre international. Le Maroc peut par exemple signer un accord avec n'importe quel pays pour pouvoir travailler sur des objectifs communs. Mmh. Et de ce fait, on doit s'attendre normalement à des investissements importants, surtout dans le domaine des renouvelables, qui vont permettre d'avoir ces crédits carbone, pouvoir les vendre sur le marché international. Mais pour cela, bien évidemment, ça dépendra du comportement du marché national des crédits carbone. Donc voilà ce que je peux dire un peu sur ce premier aspect de la rencontre de la COP de Bakou.
Tout à fait. Et également la COP 29, toujours placée sous le signe du financement des projets de lutte climatique, va-t-elle, selon vous, permettre aux pays développés d'aider les pays en développement? Le principe du pollueur-payeur va-t-il s'appliquer cette fois-ci?
Oui. C'est-à-dire que on pensait, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait des promesses de 100 milliards ou un peu plus de dollars pour aider les pays développés à réaliser des projets de baisse de CO2.
On parle d'environ 116 milliards.
Oui, bon, cette année, je crois qu'ils ont... Mais ce sont des prêts.
Mmh, tout à fait.
Nous, on s'attendait à une bonne partie en dons qui va permettre aux pays en développement, qui va les aider, parce qu'on a des projets qui ont un temps de retour qui est assez long, et on ne peut pas, le secteur privé ne peut pas investir sans une aide externe. Donc, il y a quelque part une déception, et qui dit que, bon, voilà, les pays africains, par exemple, vous avez parlé des pays africains, moi, personnellement, je considère que les pays africains n'ont pas très bien négocié les COP. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'ils ne sont pas les responsables des émissions de CO2 qui créent le problème du climat. Et, valeur d'aujourd'hui, le principe du pollueur-payeur ne s'applique pas. Donc, quand vous prenez l'Afrique, eh bien, l'Afrique, c'est 4% des émissions au monde. Le Maroc, c'est 0,2% des émissions au monde. Donc, on ne peut pas traiter le dossier d'un pays en développement comme celui d'un dossier développé, d'un pays développé. Donc, moralité de la chose, les pays africains sont lésés dans cette question, dans la mesure où on s'attendait à des dons. D'ailleurs, le Maroc et l'Égypte ont bénéficié de ces crédits dans certains projets renouvelables au Maroc et l'Égypte aussi, mais ce sont des crédits normaux. Et n'oubliez pas que ce sont des dépenses énormes. Par exemple, pour le Maroc, si on veut, quand on pense au coût de la transition électrique uniquement, c'est quelque chose entre 50 et 60 milliards de dollars. 50-60 milliards de dollars, ça veut dire 50% de notre PIB, c'est intenable. Et il n'y a pas un pays qui est surtout en voie de développement qui va permettre de tenir un tel financement. Et donc, de ce fait, il y aura certains pays qui vont aller très, très vite, des pays riches. Ben, vous prenez par exemple l'Angleterre qui disent, bon, ben voilà, en 2030, nous allons réduire nos émissions de CO2 de 81%. Et ça, c'est un engagement. Les autres pays, eh bien, ils n'ont tout simplement pas le moyen et la capacité d'endettement pour supporter des crédits. Le Maroc a dépensé quelque chose comme 5 milliards de dollars pour ses projets renouvelables. On ne peut pas imaginer plusieurs projets dont on a besoin pour décarboner notre économie. À 60 milliards de dollars, c'est intenable à mon avis. Le Maroc ne peut pas faire ça sans une aide, sans des dons, et c'est ce que l'Afrique attend normalement de ces COP.
Nous allons revenir tout à l'heure, bien évidemment, sur le cas du Maroc encore une fois, mais aujourd'hui également, est-ce que les pays africains qui subissent de plein fouet les conséquences climatiques vont finalement donc être aidés à réaliser des projets de préservation du climat qui dépassent leurs capacités financières?
Apparemment, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien. On parle encore, même à Kaboul maintenant, on parle de financement. Et parler de financement, ça veut dire quand vous voulez financer quelqu'un, eh bien, il a une certaine capacité d'endettement. Et la capacité, les pays africains, la majorité, c'est des pays qui sont très endettés. Et donc, on peut pas imposer à ces pays des choses. Des investissements qui dépassent leur capacité d'endettement. Ça n'a pas de sens. Donc, moralité de la chose, s'il n'y a pas un changement de cap dans les COP, quitte à aider les pays, parce que maintenant, prenez une entreprise africaine, va être traitée de la même manière que la Chine. Quand les deux pays vont exporter vers l'Europe, eh bien la Chine, l'entreprise africaine et l'entreprise chinoise vont payer la même taxe carbone. Alors que la Chine est le premier émetteur au monde de CO2. Et donc il y a quelque part une injustice.
D'accord. Et voilà, vous en parliez tout à l'heure, pour revenir bien évidemment au cas du Maroc, on parle de la création d'un marché carbone, mais également de l'instauration d'une taxe carbone. Ces deux mesures pourront-elles dynamiser le marché du carbone, selon vous, et inciter les entreprises marocaines à rentrer dans un processus de décarbonation?
Pour le cas de du marché carbone, c'est quelque chose qui est très attendu aujourd'hui. Il y a eu une première expérience d'un fonds carbone qui a été créé au Maroc. Malheureusement, il a été fermé, je crois, aux environs de 2018 ou quelque chose comme ça. Il a fait une seule opération qui était relative aux émissions CO2 de l'ONE dans un parc éolien de l'ONE. Et la création de ce marché et bien évidemment la reconnaissance des crédits carbone marocains, parce que si vous n'avez pas une reconnaissance de ce crédit, surtout avec l'Europe, ça ne sert à rien. Parce que dans la mesure où les exportateurs marocains peuvent échanger, si vous voulez, des crédits carbone avec l'Europe et minimiser la taxe, parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de pouvoir échanger avec l'Europe dans un cadre reconnu et officiel, et de telle sorte à ce qu'on puisse minimiser la taxe carbone sur nos entreprises. Donc donc la création du marché va être le moteur des échanges de ces certificats et bien sûr une taxe n'est jamais bonne, mais s'il y a instauration d'une taxe carbone, eh bien ça va permettre aux entreprises d'investir dans des projets d'efficacité énergétique, énergie renouvelable pour baisser cette taxe.
Justement.
Et
oui, allez-y.
Voilà. Et c'est-à-dire que la taxe carbone va rentrer dans l'amortissement des projets. Si vous installez du photovoltaïque dans votre entreprise ou des projets de ce genre, eh bien, ça va permettre de raccourcir le temps de retour de ces investissements. Mais il faut pas mal le prendre. Il faut vraiment le prendre de manière positive, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un marché assez fluide. Et de toute façon, le marché universel ou le marché mondial impose un coût à la tonne carbone.
Justement.
Là où vous êtes dans le monde, en France, au Maroc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter.
Et
ça
aussi,
vient d'être confirmé hier.
Et voilà, parlons toujours de ces taxes carbone. Dans 14 mois, c'est-à-dire dans un an, deux mois, la taxe carbone européenne va donc rentrer en vigueur dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dit MACF. Donc MACF. Aujourd'hui, est-ce que les industries marocaines sont prêtes à supporter la taxe carbone, même si cette taxe, comme vous le dites tout à l'heure, vous l'avez un peu souligné, ne va concerner au début que 6 secteurs?
Oui, aujourd'hui, ça concerne 6 secteurs. Mais quand vous lisez les documents de l'Union européenne, ils disent qu'ils se réservent le droit d'ouvrir ces taxes à toutes les importations.
Tout à fait.
Donc, les 6, c'est juste pour, à titre expérimental, pour mieux roder un peu le process. Mais après, ça va être ouvert à tout. Et la réponse courte, c'est que nos entreprises ne sont pas du tout prêtes à affronter la taxe carbone européenne. Pour la simple raison que pour décarboner une entreprise, eh bien, il faut de l'électricité renouvelable, il faut un cadre réglementaire qui puisse permettre aux entreprises de bénéficier de cette électricité renouvelable. Et donc, a priori, ça va créer des soucis une fois que ça va dépasser les 6 secteurs. Maintenant, ça va être 6 secteurs, c'est peut-être supportable, mais après ça va être beaucoup plus, ça va faire plus mal aux entreprises marocaines. N'oubliez pas une chose, c'est que il y a eu un aspect qui est passé très très inaperçu, qui est celui de l'empreinte carbone par unité produite. C'est-à-dire que l'Europe exige aujourd'hui une étiquette carbone, ce qu'on appelle l'étiquette carbone, qui dit, voilà, par exemple, un t-shirt ou un pantalon, ça, c'est, mettons, 30 grammes carbone. Par rapport à nos concurrents, qui sont, je cite, j'ai étudié le cas de la Tunisie et de la Turquie, eh bien, ils ont une empreinte carbone qui est pratiquement de moitié que la nôtre. Ça fait que on aura, et ça c'est à cause bien sûr de notre électricité qui est très carbonée, c'est beaucoup de charbon. Et c'est ça qui va poser le réel problème, c'est que nos marchandises peuvent être pénalisées par cette étiquette carbone. Mmh. Et le consommateur européen va bien évidemment s'orienter vers un produit qui est moins carboné.
Et
donc c'est ça le deuxième handicap que nous allons subir dans le cadre du MACF.
Et très rapidement également, Saïd Gamra, pour parler également de l'Afrique, le paradoxe, c'est qu'on semble s'éloigner des solutions existantes et non appliquées. Quel est votre avis dessus?
Les solutions existantes par rapport à la décarbonation de l'industrie marocaine.
Tout à fait.
Voilà. C'est-à-dire que là, le souci que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, c'est une question de réglementation, qui doit permettre aux entreprises de se décarboner. Donc, il y a deux façons de se décarboner. Soit il y a une décarbonation sur site, par exemple, l'entreprise elle installe des plaques solaires sur son site, et elle peut avoir un certain taux de décarbonation qui ne dépasse pas les 10 à 20%. C'est très peu, parce que vous êtes limité en surface. Le deuxième aspect de la décarbonation, c'est la décarbonation en hors-site. Ça veut dire que vous achetez de l'électricité à un développeur qui a un site éloigné et vous pouvez bénéficier de cette électricité renouvelable. Le hors-site aujourd'hui est impossible à avoir parce que les lois ne le, enfin il n'y a pas de décret qui permet d'opérationnaliser les lois actuelles. Le sur-site, c'est malheureusement limité à 20%. Donc 20% de taux d'injection, eh bien ça crée des problèmes de rentabilité des projets. Et donc là, on est coincé par le cadre réglementaire. Et normalement, j'espère qu'on va avoir peut-être une nouvelle réglementation qui va permettre de débloquer la situation. Mais même les lois actuelles, par faute de décrets d'application, eh bien, ils ne sont pas applicables.
Tout à fait.
Donc, ça fait que dans 14 mois, ça, c'est un travail qu'on ne peut pas faire dans 14 mois. Même si on veut bien le faire, c'est impossible. Donc, ça fait que, valeur d'aujourd'hui, on est un petit peu coincé dans ce domaine.
Dans ce domaine, on est un peu coincé aujourd'hui également. C'était dans l'optique de la COP 29, la conférence donc des Nations Unies sur le climat, prévue donc cette année et qui a eu lieu à Bakou, où l'Afrique, bien évidemment, s'attend et s'attendait toujours, bien évidemment, à aujourd'hui une approche beaucoup plus positive dans cette quête de développement durable et de durabilité. Et pour en parler, nous avions reçu Saïd Gamra, expert en management de l'énergie. Merci encore à vous, Monsieur Gamra.
C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Merci également à vous, chers amis, pour la confiance durable de cette durabilité de l'émission podcast qui vous parle de développement durable et de durabilité. Rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.